Nous sommes le 2 décembre 2023.
Est-ce que vous m'entendez bien ? Si jamais vous ne m'entendez pas bien, vous me faites des grands signes comme ça. Je comprendrai. Oh là ! Voilà. Alors, ces enseignements du samedi visent à nous aider à vivre un chemin de libération. Le défaut que nous pouvons avoir dans nos attentes lorsque nous cherchons la libération, c'est de croire que cette libération nous vient exclusivement de l'extérieur, comme quelque chose de magique. Il y en a même qui essayent de trouver des prières sur Internet qui, soi-disant, sont efficaces. J'appelle ça tout simplement de la magie. Une prière n'est efficace que par la foi et non pas par les paroles de la prière. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. C'est par la foi que nous sommes libérés. Si ce sont les paroles de la prière du style, les prières de l'abbé Julio, qui, comme vous le savez, avait été écarté du sacerdoce, car il préférait la magie blanche, eh bien, si c'est des prières dites merveilleuses, je vous conseille de laisser tout ça plutôt dans une poubelle, car ça n'est pas notre démarche. Ce n'est pas une démarche chrétienne. Notre démarche est une démarche de foi, et puisque c'est une démarche de foi, elle commence par une conversion. Alors, comme on n'a pas fini de se convertir, eh bien, aujourd'hui, on va voir quelques petits points de conversion. Et pour ça, j'ai choisi effectivement de partir de l'expérience de la conversion dite complète de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, puisque vous savez peut-être que cette conversion a eu lieu le jour de Noël. Donc c'est intéressant de faire mémoire de cet événement. Et à la lumière de cette complète conversion, eh bien nous essayons de voir, nous demandons au Saint-Esprit, des lumières sur notre chemin de conversion. Ce fut, je cite Thérèse, « Ce fut le 25 décembre 1886 que je reçus la grâce de sortir de l'enfance. En un mot, la grâce de ma complète conversion. » On va réécouter le récit, que vous connaissez peut-être. « Nous revenions de la messe de minuit, ça c'est très important. » Il revient de la messe de minuit. Elle a 14 ans, presque. Elle a fait sa première communion 4 ans plus tôt. Donc, elle a communié. Et elle dit elle-même, « Où j'avais eu le bonheur de recevoir le Dieu fort et puissant. » En arrivant au Buissonnet, je me réjouissais d'aller prendre mes souliers dans la cheminée. Cet antique usage nous avait causé tant de joie pendant notre enfance que Céline voulait continuer à me traiter comme un bébé, puisque j'étais la plus petite de la famille. Papa aimait à voir mon bonheur, à entendre mes cris de joie en tirant chaque surprise des souliers enchantés. Et la gaieté de mon roi chéri augmentait beaucoup mon bonheur. Mais Jésus voulant me montrer que je devais me défaire des défauts de l'enfance, m'en retira aussi les innocentes joies. Il permit que papa, fatigué de la messe de minuit, éprouva de l'ennui en voyant mes souliers dans la cheminée et qu'il dit ces paroles qui me percèrent le cœur. Enfin, heureusement que c'est la dernière année. Je montais alors l'escalier pour aller défaire mon chapeau. Céline, connaissant ma sensibilité et voyant des larmes briller dans mes yeux, eut aussi bien envie d'en verser, car elle m'aimait beaucoup et comprenait mon chagrin. « Ô Thérèse, me dit-elle, ne descends pas. Cela te ferait trop de peine de regarder tout de suite dans tes souliers. » Mais Thérèse n'était plus la même. Jésus avait changé son cœur. Refoulant mes larmes, je descendis rapidement l'escalier et comprimant les battements de mon cœur, je pris mes souliers et les posant devant papa, je tirai joyeusement tous les objets ayant l'air heureuse comme une reine. Papa riait, il était aussi redevenu joyeux. Et Céline croyait rêver. Heureusement, c'était une douce réalité. La petite Thérèse avait retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Alors on entend ici qu'il y a une grâce de force, elle reçoit une grâce, et en même temps, il y a un acte héroïque. Elle pose un acte. Il y a les deux. Avant de retourner sur ce qui s'est passé, je voudrais juste vous dire, vous rappeler, eh bien, les conversions que Thérèse a faites avant cette conversion-là. Je vous rappelle que Sainte Thérèse a 8 frères et sœurs et 4 sont morts en bas âge. Il reste donc Marie, Pauline, Léonie, Céline. Elle a 4 sœurs. Et comme Zélie avait un cancer du sein, elle manquait de lait, c'était la raison d'ailleurs pour laquelle plusieurs enfants sont morts en bas âge. Thérèse a été mise en nourrice à l'âge de 2 mois et demi. Et elle est confiée pendant 1 an à une nourrice. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas le téléphone. 1 an de séparation. Ensuite, quand elle revient chez sa maman, il y a une autre séparation, évidemment. Et la maman va mourir, Thérèse a 4 ans. C'est là qu'elle va choisir la deuxième sœur, Pauline, comme la mère d'emprunt. Et Pauline va rentrer au Carmel, d'ailleurs, elle ne l'avait pas prévenue. Thérèse a 10 ans. Et l'autre sœur qu'elle avait choisie par la suite, s'appelle Marie, rentre au Carmel 1 an après. Ça fait un peu trop. Et Thérèse va s'installer dans une sensibilité qui la rend assez difficile finalement à vivre. Mais quelles sont donc les conversions que Thérèse a faites avant cette complète conversion ? C'est peut-être intéressant pour nous. À 6 ou 7 ans, elle nous dit qu'elle prend la résolution de vivre sous le regard de Jésus. Elle prend la résolution de vivre sous le regard de Jésus. Souvent, nous vivons sous notre propre regard, n'est-ce pas ? Et c'est un grand pas déjà de dire non, non, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, avec ta grâce, Seigneur, je vais vivre sous ton regard. C'est la première conversion que Thérèse va raconter dans son manuscrit. Elle est avec sa sœur Pauline et elle contemple le coucher du soleil. Vous savez, le coucher du soleil en bord de mer, puisqu'elles étaient à Trouville. Le soleil faisait un sillon d'or. Et là, elle se dit, tiens, moi je veux être sur ce sillon, pas à côté, sous le regard de Jésus. Première intuition très forte. Deuxième conversion, on va dire, à l'âge de 11 ans. Elle a fait sa première communion. Enfin, en tout cas, elle s'y prépare, c'est juste avant. Et il y avait, c'est vrai à l'époque, un certain jansénisme. Les prédications pouvaient être assez effrayantes. Elle prend trois résolutions, je crois qu'on pourrait les noter pour nous-mêmes. Première résolution, je ne me découragerai pas. Première résolution, je ne me découragerai pas. Deuxième résolution, je dirai tous les jours un souvenez-vous à la Sainte Vierge. Vous vous rappelez le souvenez-vous de Saint Bernard, rappelez-vous qu'on n'a jamais entendu dire que tous ceux qui se sont confiés à vous ont été abandonnés. Donc un acte de foi, souvenez-vous. Et puis, troisième résolution, je tâcherai d'humilier mon orgueil. Ça peut être intéressant aussi. Je répète, je ne me découragerai pas, je dirai tous les jours un souvenez-vous à la Sainte Vierge, je tâcherai d'humilier mon orgueil. Un peu plus tard, elle fait sa première communion, elle a 11 ans. Alors c'est très beau, c'est magnifique. Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimé et je disais aussi, je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Je vous aime, je me donne à vous pour toujours. Autrement dit, la petite Thérèse a donné sa vie à Jésus à l'âge de 11 ans. Et vous ? Notez-le, donner sa vie à Jésus, ben, c'est une loi d'amour. Il se donne complètement, mais il ne peut pas se livrer complètement si nous-mêmes, nous ne nous donnons pas complètement. C'est pas moi qui le dis, c'est Sainte Thérèse d'Avila. C'est une loi de l'amour. Thérèse ne lui avait-elle pas demandé de lui ôter sa liberté, car sa liberté lui faisait peur. Bon, la liberté dans le sens libre arbitre. Je fais ce que je veux quand je veux. Oui, sauf que qu'est-ce qu'il veut en toi ? Est-ce que c'est l'homme nouveau ou est-ce que c'est le vieil homme ? Voilà. Alors, à l'âge de 14 ans, donc, cette petite Thérèse, eh bien, elle dit d'elle-même qu'elle ne paraît avoir de volonté que celle des autres. Elle ne paraît avoir de volonté que celle des autres. Autrement dit, il faut la regarder, il faut lui dire « tu fais très bien, mon enfant ». Et si on ne lui dit pas, ça se passe mal. Mais c'est une petite fille très bonne. Très bonne. Mais elle est quand même dans un attachement aux créatures, finalement, pour pouvoir survivre. C'est le mode survie, finalement. Si la créature disparaît, il n'y a plus personne. Si Céline avait le malheur de n'avoir pas l'air d'être heureuse et surprise de mes petits services, je n'étais pas contente et lui prouvais par mes larmes. J'étais vraiment insupportable par ma trop grande sensibilité. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe finalement à Noël et qu'est-ce qu'une complète conversion, si on en croit la petite Thérèse? Cette complète conversion va consister pour nous à sortir de l'enfance infantile. Tout à l'heure, on disait, mais il faut être des petits-enfants devant Dieu, mais pas infantile. Vous voyez, le petit enfant infantile va fonctionner sur un mode qui est souvent un mode assez fusionnel. C'est-à-dire, vous voyez, l'enfant dans le ventre de sa mère, il reçoit tout. C'est quand même assez intéressant de tout recevoir. Et si l'enfant refuse de se séparer, comme le dit la loi biblique dans Genèse 2, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Il y a une loi de séparation. Alors l'enfant non séparé, eh bien, va mettre le grappin sur la personne ou les personnes sur lesquelles il aura projeté le parent, qu'il a refusé finalement de quitter. Quelque part en nous sommeille un enfant roi, ou alors un enfant qui s'écrase, en laissant toute la place à un autre. On y reviendra tout à l'heure. Mais parlons d'abord de cette grâce de quitter cette enfance infantile. Qu'est-ce qui lui arrive ? La première chose, c'est une grâce de force et de courage qui va se déployer dans sa faiblesse. Imaginez cette petite qui monte l'escalier, si vous avez été à Lisieux, au Buissonnet, il y a un escalier, et Céline en haut, les bras grands ouverts. Et qui lui propose finalement le régime infantile. Ma pauvre, la pauvre petite Thérèse. Et là, elle dit elle-même qu'elle a retrouvé la force d'âme qu'elle avait perdue à 4 ans. À 4 ans et demi. Et c'était pour toujours qu'elle devait la conserver. Il y a une grâce de force. Comment le petit enfant en nous va-t-il supporter la solitude ontologique, c'est-à-dire cette solitude de l'être? Nous sommes quelque part seuls devant Dieu, devant le seul. Et c'est en lui que nous allons trouver notre identité. Et elle dit, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Autrement dit, Thérèse vit l'effusion du Saint-Esprit. Elle entre dans cette capacité d'aimer que l'Évangile appelle agapé. Car lorsque Jésus nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé », il s'agit bien de l'agapé, et non pas de l'amour égocentrique qu'on va appeler en grec « philotia », c'est un autre mot. Il y a des gens parfois qui me disent « Mon père, j'ai pas de péché, c'est pour ça que je ne me confesse pas ». Ah bon ? Notre péché, en fait, c'est de ne pas obéir, de ne pas vraiment obéir au commandement de l'agapé. J'aime, oui, mais mal. Notre amour est souvent égocentrique, égocentré. Et nous avons besoin de recevoir du Saint-Esprit ce vrai amour qui nous fait sortir de nous-mêmes le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et là, il y a l'entrée dans la vie, dans l'Esprit. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Vous reconnaissez Saint Paul aux Galates. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Alors ça, c'est la première composante de cette grâce. En fait, on s'aperçoit, même si la petite Thérèse, après, elle va dire « Mais c'est Jésus qui fait tout, et moi je fais rien, je m'abandonne, je suis ce petit enfant dans les bras de son père, et je jette des fleurs sans même regarder où je les jette. » Enfin, on se dit « Waouh !» Mais en fait, elle dit elle-même, « J'ai pensé aujourd'hui, c'était quelques années plus tard, elle est sur son lit de mort, j'ai pensé aujourd'hui à ma vie passée, à l'acte de courage que j'avais fait autrefois à Noël. Et la louange adressée à Judith m'est revenue à la mémoire. Vous avez agi avec un courage viril et votre cœur s'est fortifié. Bien des âmes disent « Mais je n'ai pas la force d'accomplir tel sacrifice. Qu'elle fasse donc ce que j'ai fait, un grand effort. Le bon Dieu ne refuse jamais cette première grâce qui donne le courage d'agir. Après cela, le cœur se fortifie et l'on va de victoire en victoire. » Alors vous voyez le truc, dans une conversion, c'est la grâce évidemment. Comment être comme Jésus nous demande d'être si son Saint-Esprit n'est pas en nous? Donc, Seigneur, viens, viens Saint-Esprit. Sauf que il nous est demandé de bien vouloir ce que Dieu veut, de le vouloir et de le désirer avec force. Et ce désir va nous pousser à faire comme disait la petite Thérèse, le pas vers la première marche. La première marche, finalement, de cette vertu qui s'appelle l'amour. Et là, l'ascenseur, pour reprendre les termes de Thérèse, l'ascenseur des bras de Jésus vient tout de suite. Parce que Dieu attend de nous que nous fassions ce premier pas aussi. En fait, le premier pas, il l'a fait depuis longtemps, lui, à notre égard. Mais ce n'est pas pour rien, vous voyez, dans la Bible, que Dieu donne des commandements. Le commandement, on va dire oui ou non. Donc c'est un exercice aussi de conversion pour notre volonté. Je mets devant toi la vie ou la mort, choisis la vie. Il s'agit pour nous de faire un choix. Et c'est le deuxième aspect de cette conversion. Donc on l'a compris, elle a reçu à Noël la communion, il y a la présence même de Dieu, du Dieu fort dans son cœur. Et qu'est-ce qui fait que Dieu peut agir? Elle prend simplement une décision. Et c'est une grâce de force. Dieu et elle ont pu se retrouver très précisément. Et elle va vivre une transformation intérieure de son affectivité et finalement de sa position devant Dieu et devant les autres. Et j'aimerais vous dire quelques mots de cette conversion qui va être aussi pour nous très importante. Si toutefois, nous voulons vivre dans l'amour, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis, je fus heureuse. Il y a précisément dans cette conversion une transformation de la relation aux autres et finalement une forme de séparation. Thérèse n'a plus besoin des bras de Céline qui l'entretiennent dans le maternage. Elle n'en a plus besoin, car elle décide de s'appuyer sur la force de Dieu. Et on reconnaît ici une autre loi biblique, je l'ai citée tout à l'heure, à part Genèse 2, mais c'est Genèse 12, verset 1. Dieu dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, quitte ton pays, ta patrie, le pays de ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je montrerai. » Voilà. Et Abraham, ce nom signifie père élevé ou père exalté, va bientôt devenir Abraham, père des multitudes, d'une multitude de nations. Abraham. Pour dire qu'entre Abraham et Abraham, il y a une transformation, excusez-moi du terme, ontologique, de l'être profond. Ça n'est plus le même homme. On retrouve cela, on s'en rappelle dans l'Évangile, Jésus va dire à Simon, désormais, tu t'appelleras Pierre. Ça n'est plus le même homme. Simon, désormais, va s'appeler Pierre. Le nom signifie l'identité. Ça veut dire que pour rentrer dans notre véritable identité, il nous faut vivre une séparation. Une séparation, oui, d'un mode de relation, j'allais dire idolâtre. Pourquoi idolâtre ? Parce que si nous exigeons de la créature qu'elle remplisse notre cœur dans une totale plénitude, alors nous la prenons pour Dieu, car Dieu seul peut remplir notre cœur. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que vous faites des médiations ? On a besoin les uns des autres. Oui, il y a une petite nuance. Nous allons recevoir effectivement la présence de Dieu les uns des autres, mais ça sera sans exigence. Aucune exigence. Je ne peux jamais exiger de l'autre ce qui va remplir mon cœur. Le Cantique des Cantiques nous dit « Celui qui veut acheter l'amour ne recueille que du mépris. » Car l'amour est gratuit et l'amour se donne à un cœur pauvre qui n'est pas dans l'exigence. Alors, la grâce que reçoit Thérèse, je l'appellerai une grâce de chasteté. Je m'explique. N'entendez pas le mot chasteté dans sa connotation sexuelle, mais entendez le mot chasteté dans son étymologie latine. Castus veut dire séparé. In castus, l'inverse, ça a donné inceste. Autrement dit, on fait un petit résumé peut-être un peu audacieux, celui qui n'est pas chaste est incestueux. C'est-à-dire, il refuse de quitter le parent. D'accord ? Si vous n'êtes pas chaste dans votre relation à l'autre, finalement, vous projetez le parent sur l'autre. Et vous êtes devenu soit un enfant roi qui exige son amour comme l'enfant exigeait son biberon, ou alors, dans le sens inverse, vous cherchez un parent dominateur et vous vous écrasez pour être l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien, comme disait Jacques Brel. Autrement dit, vous n'existez pas. Et vous vivez dans une forme de fusion. Il est bon de repérer dans nos vies ce qui relève de la fusion et ce qui existe dans toute relation fusionnelle, finalement. Alors, on va repérer certains points. En général, dans la fusion, il y a la séduction. C'est quoi la séduction ? C'est la réduction de l'autre à soi-même. J'attire l'autre dans mon territoire. Je le séduis. Je le coupe de lui-même pour le faire entrer dans le moi. Entendez-le comme ça. D'accord ? Ce sont des termes un peu précis. Séduction. Une séduction qui va, en fait, comme anesthésier vos capacités de réflexion, vos capacités d'être vous-même. Tellement vous avez envie, finalement, de l'autre. Il y a, dans la séduction, souvent une idéalisation. Cette personne est extraordinaire. Vous savez, quand on me dit « vous êtes extraordinaire », je me méfie. Parce que généralement, la relation fusionnelle met sur un piédestal, mais idéalise. Et quand on voit que l'autre n'est pas ce qu'on pensait qu'il est, et bien il retombe au 10e sous-sol, voire même en dessous. Ensuite, lorsqu'on est resté dans un mode de relation qui est celui, finalement, du petit enfant qui ne veut pas quitter la dépendance que je nomme idolâtre, du coup, il y a confusion. Confusion dans la relation, pourquoi ? L'enfant va rester enfant, certes, mais il risque d'être un enfant roi. Donc, il va peut-être jouer le rôle de parent, de son propre parent. Vous savez, il y a parfois des inversions dans les familles. Et voici que l'un des enfants se prend le parent du parent. Le parent va être le copain, voire l'enfant de son enfant. Et dans la fratrie, un membre de la fratrie va être le père ou la mère de son frère ou de sa sœur. Et finalement, on joue un jeu de rôle qui fait que l'identité est perdue. On n'est pas soi-même. Enfin, donc séduction, idéalisation, confusion des places et finalement un pouvoir de type autoritaire. Soit on est dominant, soit on est dominé. Ceux qui vivent en couple, il peut y avoir un peu de ça, mais vérifiez que vous n'êtes pas dans une relation de dominant à dominé. Où on voit qu'il y en a un qui décide tout pour l'autre, et l'autre, ça l'arrange bien finalement, parce qu'on s'installe dans une forme qui est plutôt celle de l'enfant qui n'est pas converti. Il y a d'un côté l'enfant roi, à qui on doit tout, l'enfant roi, et puis il y a l'enfant qui se laisse écraser. L'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Vous méritez autre chose, nous méritons autre chose. Et là, évidemment, quand on est dans une situation d'emprise, par exemple, si on a eu un parent pervers narcissique, on risque aussi de se marier avec un pervers narcissique, parce qu'on n'a pas réglé la question du parent. Et on reste toujours lié, dans un sens, à ce parent, vous comprenez ? Et le pervers narcissique, lui, il emploie évidemment la manipulation, le pouvoir. Un pouvoir qui peut être normatif, c'est lui, forcément, qui détient la vérité. Donc, vous comprenez, lorsque nous sommes dans un cadre spirituel, eh bien, celui qui détient la vérité, c'est votre gourou. Attention de ne pas être le gourou les uns pour les autres. Ça peut être donc une emprise spirituelle, une emprise intellectuelle, l'emprise d'une parole, d'un regard, d'un interdit qui ne vient pas de Dieu. Et enfin, le pervers va vous culpabiliser en permanence. Va vous maintenir dans une culpabilité. Et ça, c'est l'emprise perverse. Mais attention, il y a la soumission à l'emprise. Si je vis moi-même cette situation, c'est-à-dire je vis avec un patron pervers narcissique ou tout simplement manipulateur, ou avec un conjoint qui a des tendances comme ça, c'est peut-être que je ne suis pas complètement sorti d'une problématique d'enfance. D'accord ? C'est-à-dire que mon parent était le parent, père ou mère, avait un côté écrasant, par exemple, si moi je me situe comme victime. Ou alors je peux être dans la réaction et je peux passer ma vie comme ça. Ce qui fait, on en avait parlé déjà une fois, vous vous rappelez, que si on n'a pas fait un travail de pardon véritable sur ce que nous avons vécu dans notre passé, nous maintenons des liens qui sont aussi des liens fusionnels, où on va prendre le pouvoir, on va essayer de prendre le pouvoir sur l'autre. Et ça peut durer des années. Voilà. Donc, la séduction, la confusion des places et cette relation dominant-dominé. Alors, ici, on pourrait en parler longtemps évidemment, mais il s'agit pour nous, lorsque l'on prend conscience de ces inconversions finalement, qui sont des immaturités, vous voyez, le péché peut se brancher sur notre immaturité, de l'importance de parler différents aspects de la conversion. Dans la conversion, il y a une guérison, puisque nous entrons dans notre véritable identité. Alors, il y a pour nous tout ce que nous avons à faire, finalement, lorsque nous avons pris conscience aussi de ce qui nous ligote, ce qui était le cas de la petite Thérèse, eh bien, c'est le choix de quitter ce mode, de quitter. pour suivre le Seigneur et accueillir le Seigneur. Et là, si nous faisons le choix de quitter, si nous quittons, comme Abraham, la maison de notre père, qui est quelque chose d'un peu symbolique, où on a tous nos appuis et tous nos trucs, nous nous retrouvons au désert. Et ça nous rappelle évidemment Osée, chapitre 2, verset 16, « C'est pourquoi je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. » On va éteindre nos écrans, nous allons éteindre nos télévisions et nous allons expérimenter le silence intérieur. Ça, c'est la deuxième condition. Choisir de quitter ce mode pour entrer dans une solitude devant Dieu, qui n'est pas un isolement. On va faire la différence entre l'isolement et la solitude. La solitude du jardin clos, le cantique des cantiques. Le bien-aimé qui chante à sa bien-aimée vient dans mon jardin. Mais il y a un jardin. Ben oui, le jardin c'est chez vous. C'est votre intimité. Et elle est fermée. C'est pour ça que la pornographie est un énorme mensonge et un désastre. Parce qu'il n'y a plus d'intimité. Donc vous êtes comme livré au renard, pour reprendre les images du cantique des cantiques. Votre identité est mise en danger. Et plus qu'en danger, elle n'existe plus. Alors, il s'agit d'accueillir cette présence de Dieu dans nos cœurs, qui est cette présence d'amour, entrer dans le temple, oser ce silence et nous exposer à la présence de Dieu sans aucune exigence, car nous n'allons pas non plus projeter sur Dieu ce que nous avons projeté sur un parent en tant qu'enfant roi. « Dieu, tu dois me donner ça, 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 et puis sinon, bon, on peut être dans une position face à Dieu, en fait, qui nous laisse dans une impasse. » Saint Jacques va dire, « Vous priez, vous n'êtes pas exaucé, mais c'est parce que vous priez mal. Vous demandez pour vous-même, pour alimenter votre moi, moi, moi. » Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. Car Dieu est amour. Voilà. Alors, à nous de consentir à entrer dans... à quitter et entrer dans cette solitude. Et dans cette solitude, nous allons apprendre à relationner. Et là, c'est la grâce de Dieu. Je sentis la charité pénétrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis, je fus heureuse. Lorsque l'on a quitté un mode de relation où l'intimité, la mienne, celle d'autrui n'est plus respectée. Lorsqu'on veut quitter cela, évidemment, on se retrouve dans une solitude qui, si elle n'est pas habitée par Dieu, est terrible. Mais on va entrer dans cette vraie intimité de la relation à celui qui est amour. Et qui va nous révéler à nous-mêmes qui nous sommes. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et c'est le sens de notre nom de baptême. Par notre nom de baptême, nous recevons une identité. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il faut comprendre les noms religieux, vous savez. Si vous faites des vœux religieux, ça a été mon cas, vous recevez un autre nom. Timothée n'est pas mon nom de baptême. Fermez la parenthèse. Et ça se comprend dans le sens où, lorsque on fait alliance avec Dieu, on devient ce que l'on est. On va recevoir notre identité, Colossiens 3:3, considérez que vous êtes mort et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Ce que vous êtes. Plus nous allons être dans une relation vraie avec Dieu, plus nous serons nous-mêmes. Thérèse, le jour de Noël, va recevoir donc l'effusion du Saint-Esprit qui la fait passer de l'amour philotia, je t'aime parce que j'ai besoin de toi, un amour utilitaire, à l'amour agapé, je t'aime parce que c'est toi. Adam, lorsqu'il a vu Ève, s'est pas dit chouette, j'aurai de l'aide, au moins elle va me servir. Il a été émerveillé, c'est ça l'amour, c'est un émerveillement. Un regard quasi prophétique finalement sur l'autre que vous reconnaissez tel qu'il est devant Dieu, et non pas tel qu'il paraît. Ça c'est la grâce de l'amour agapé. Je compris que l'amour renfermait toutes les vocations, que l'amour était tout, qu'il embrassait tous les temps et tous les lieux, en un mot, qu'il est éternel. C'est Thérèse 10 ans après. Alors, dans l'excès de ma joie délirante, je me suis écrié, ô Jésus, mon amour, ma vocation, enfin je l'ai trouvée, ma vocation, c'est l'amour. Oui, j'ai trouvé ma place dans l'Église, cette place, ô mon Dieu, c'est vous qui me l'avez donnée. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Ainsi, je serai tout, ainsi, mon rêve sera réalisé. Alors, ce qui est un petit peu curieux dans le récit de la grâce de Noël 86 chez Thérèse, c'est que elle raconte ce qui lui arrive dans son manuscrit A, et sans revenir à la ligne, elle continue avec un événement qui s'est passé en juillet 87. Elle est dans la cathédrale de Lisieux et puis elle voit une image qui sort de son livre, de son missel. Cette image, c'est un crucifix, un Jésus crucifié, très classique, vous voyez, très très classique, avec une Marie-Madeleine à ses pieds. Il y en avait plein à l'époque. Mais là, qu'est-ce qui lui arrive ? Je fus frappé par le sang qui tombait d'une de ses mains divines. J'éprouvais une grande peine en pensant que ce sang tombait à terre, sans que personne ne s'empresse de le recueillir. Et je résolus de me tenir en esprit au pied de la croix pour recevoir la divine rosée qui en découlait, comprenant qu'il me faudrait ensuite la répandre sur les âmes. Le cri de Jésus sur la croix retentissait aussi continuellement dans mon cœur « J'ai soif ». Ces paroles allumaient en moi une ardeur inconnue et très vive. Je voulais donner à boire à mon bien-aimé et me sentais moi-même dévoré de la soif des âmes. Ce n'étaient pas encore les âmes des prêtres qui m'attiraient, mais celles des grands pécheurs. Je brûlais du désir de les arracher aux flammes éternelles. Tout ça pour nous faire comprendre qu'une véritable effusion du Saint-Esprit, ce n'est pas une espèce de luxe qu'on va sentir dans son cœur. Vous savez, on se sent tout chaud, tout joyeux, tout ça. Mais c'est aussi la transformation de notre relation aux autres. Et pour Thérèse, c'est cette communion au cœur de Jésus. Et ce qui est assez étonnant, c'est que l'image en question, elle est très sobre. Quand on regarde bien, on ne voit pas de sang. Elle voit et elle entend. Elle voit le sang et elle entend le cri de Jésus. Et ça la bouleverse. Et c'est comme si ce cri pénétrait dans son cœur et elle comprend qu'elle a quelque chose à faire là. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Mel Gibson, La Passion. Et dans ce film, au moment de la crucifixion, on voit une scène très belle. C'est la Sainte Vierge qui va recueillir le sang de Jésus dans ses mains et qui va le répandre sur son visage. Thérèse veut faire la même chose, mais répandre ce sang sur les âmes. Et elle comprend qu'elle, elle va spirituellement se tenir au pied de la croix pour que le sang de Jésus soit répandu sur les âmes. Par sa prière et, dit-elle, le sacrifice. Prière, sacrifice. Et elle dira, ce sont mes armes, donnez-moi. Archimède, il avait trouvé un levier pour soulever le monde. Thérèse me dit, moi, le levier, je l'ai trouvé, et il est beaucoup plus efficace que celui d'Archimède. Mon levier, c'est la prière, le sacrifice. Et par la prière, on va soulever le monde. C'est comme ça qu'on a fêté il n'y a pas longtemps la mémoire de Notre-Dame de la rue du Bac. Elle tient le monde dans ses mains. Enfin, ce n'est pas elle le sauveur. Elle est médiatrice, d'accord ? Sauf que par la prière, nous, on va participer à ce salut. D'accord ? Et Jésus nous attend là. Et il nous appelle. Alors, c'est aussi cette sortie de nous-mêmes. Vous voyez, on fait un échange, on dit « Jésus, tu es mon sauveur. Donc tout ce qui en moi ne va pas, je te le donne. Tu vas t'en occuper. Et moi, je rentre dans cette logique de l'amour. » Non pas intellectuellement, mais je reçois ton amour. C'est une communion. Et ça, c'est l'effusion du Saint-Esprit que nous avons tous besoin de demander, en particulier dans cette période de Noël, où le Dieu fort, pour reprendre les termes de Thérèse, se fait tout petit, mystère de l'incarnation, l'enfant Jésus, il est Dieu. Et il a tous les pouvoirs de Dieu. C'est pour ça qu'il est représenté, notamment à Prague, aussi, il tient le monde dans ses mains. Un enfant petit tient le monde dans ses mains. L'enfant Jésus de Prague. En France, on a l'enfant Jésus de Beaune. Alors lui, à Beaune, on insiste sur la pauvreté du bébé emmailloté. Il est... Les bras ne sortent pas à Beaune. Il est complètement emmailloté. Mais avec un tissu qui nous rappelle la royauté. Il est roi. Ce Dieu qui se fait pauvre, faible, dans la crèche de Noël, il n'est pas né dans un palais, veut nous dire que dans nos crèches, à nous, c'est-à-dire les lieux sombres qu'on ne lui a pas encore ouverts, il désire être tout pauvre. Vous savez, un enfant, tout petit, a beaucoup de pouvoir, finalement, c'est le pouvoir de l'amour. Moi, j'aime beaucoup quand on a un bébé parmi nous, prendre la photo des personnes qui regardent le bébé, qui le regardent vraiment. Vous voyez les visages qui s'illuminent. Quelle force dans le petit enfant qui se remet entièrement, voilà, dans la confiance. Et ça, c'est l'incarnation de Jésus que nous allons fêter à Noël. Alors, pour terminer, je voudrais juste vous dire un mot sur les qualités de l'enfant Jésus. Puisque, en fait, nous le comprenons, notre conversion est aussi, elle est d'abord, finalement, une transformation, une mutation. Et nous allons devenir enfants de Dieu. On ne sera plus l'enfant infantile, l'enfant roi, dominateur, ou l'enfant qui s'écrase, etc. Vous avez bien entendu. Nous allons devenir frères, sœurs de l'enfant Jésus. Alors, il y a une sainte qui a vécu à Beaune, qui s'appelle Sainte Marguerite du Saint-Sacrement, qui avait des visions et des révélations de l'enfant Jésus. Et voilà les cinq vertus qu'elle a soulignées chez l'enfant Jésus. Bon, il en a plus que cinq. Hein. Alors, je vais vous faire deviner la première. Qu'est-ce qui caractérise le plus, finalement, Dieu ? L'amour qui est l'humilité, voilà. Voilà. La première vertu de l'enfant Jésus, bon, qu'il n'est qu'amour, il n'est qu'amour et miséricorde, disait la petite Thérèse. La première vertu de l'enfant Jésus, c'est l'humilité. L'humilité consiste simplement à reconnaître ce que nous sommes devant Dieu, c'est-à-dire des créatures capables d'aucune fécondité tant qu'elles ne sont pas reliées à Dieu comme les sarments sont reliés à la vigne. Jean 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. » L'humilité, c'est cette position intérieure qui est celle de Jésus lui-même vis-à-vis de son Père. Il dit « Je ne fais rien que je n'ai pas vu le Père, je ne dis rien que je n'ai pas entendu chez le Père. » L'humilité, c'est cette position devant Dieu. Avec, finalement, aussi un éclairage sur ce que nous sommes. La personne humble, c'est la personne qui se connaît elle-même. C'est-à-dire, elle connaît ses qualités, ses talents, mais elle connaît aussi ses immaturités, ses défauts et ses péchés. C'est une grâce de lumière. La petite Thérèse, avant de mourir, a dit « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». En fait, elle reprenait aussi ce qu'avait dit la grande Thérèse d'Avila. Elle a dit « L'humilité, c'est la vérité. » Et la petite Thérèse va rajouter, j'espère qu'on pourra dire ça le jour de notre mort, « Je crois que je suis humble. » Elle le dit peu de temps avant d'expirer. Yes. Voilà, donc cette vérité qui va nous plonger non pas dans un désespoir parce qu'on a vu que quand même pas mal de progrès à faire, mais en fait qui nous plonge dans les bras de Dieu. Bras de Dieu. Et devant Dieu comme devant les autres, qui nous situe comme serviteurs, non pas carpette, serviteurs du bonheur de l'autre. Devant Dieu, nous sommes serviteurs aussi, puisque nous allons consoler son cœur. Dans l'amour, on va chercher l'intérêt de l'autre d'abord. Et on sait très bien que c'est comme ça que nous allons recevoir. Celui qui donne, reçoit. C'est une loi évangélique. Il y a une deuxième qualité de l'enfant Jésus, c'est l'obéissance. Alors, c'est quoi l'obéissance, en fait? On n'aime pas trop ce mot, parce que, vous comprenez, voilà, ça nous fait penser aux sectes, on doit obéir. Bon, l'obéissance, c'est, en fait, la vertu qui fait de nous des fils. C'est, en fait, le mot « obéir » en hébreu, c'est le même mot que « écouter ». Finalement, le mot « obéir » signifie « écouter ». Écoute Israël, Deutéronome 6. La Bible nous enseigne cette attitude intérieure de l'écoute. Souvent, on n'écoute pas, on est dans un mode défense. « Non, je ne suis pas d'accord avec toi. » Écoutez. C'est la qualité de l'écoute. Et si la parole qui nous est dite vient de Dieu, elle portera ses fruits, car Dieu dit, et cela est. Alors, l'écoute est une disposition intérieure qui nous permet de recevoir la vie, tout simplement. Écoute, Israël, car Dieu veut pour nous la vie. Et la vie en plénitude, c'est ce que dit Jésus, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie », il rajoute, « et la vie en plénitude ». Troisième vertu, la simplicité. On en a parlé tout à l'heure, ça faisait partie des premières conversions de la petite Thérèse. La simplicité, c'est vivre en enfant sous le regard du Père, et non pas sous notre propre regard ou celui des autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas tenir compte des autres, bien sûr, mais Dieu premier. La simplicité, je vis sous le regard du Père. Comment est-ce que nous commençons nos journées? Ben, j'espère que nos journées commencent justement par ce petit exercice intérieur qui consiste à émigrer sous le regard du Père. Des gens qui me disent « Mais si, je prie tous les soirs. » Bon, il manque en fait le démarrage, quoi. C'est trop dommage d'attendre le soir pour dire ben, « Seigneur, coucou, quoi. » Vivre sous le regard du Père, et c'est une force. C'est aussi une décision, mais c'est une vertu de l'enfant Jésus, évidemment. C'est une liberté intérieure à recevoir d'en haut. Mais si vous avez bien compris, nous ne pouvons pas recevoir si nous ne désirons pas. C'est lui, nous dit Saint Jean de la Croix, qui nous fait désirer et qui nous donne ce que nous désirons. Quatrième vertu, on a presque fini, c'est la pureté. La pureté qui est cette disposition du cœur qui nous permet de vivre avec Dieu et les autres un amour agapé, un amour qui n'est pas mélangé. C'est vraiment l'agapé. Un amour sans mélange, ça c'est la pureté. C'est pas « je t'aime, mais quand même, il faudra me payer un petit peu, quoi. » Voilà, quoi. normal. Cet amour qui rend libre finalement. Et finalement qui nous donne de reconnaître la présence de Dieu en tout lieu, en tout temps. C'est la béatitude, la deuxième béatitude, enfin la troisième. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu, ils verront Dieu. J'espère que nous voyons Dieu par la foi. Vous savez, quand on cherche le mal, on le trouve assez facilement. Et finalement, on ne voit plus que ça. Il y a une autre stratégie qui va consister à chercher Dieu. Et ça, c'est la vertu de pureté. Je termine. L'innocence. La dernière vertu que signale cette sainte Marguerite du Saint-Sacrement, l'innocence qui ne consiste pas seulement à ne pas faire le mal, mais l'innocence c'est de ne pas s'intéresser au mal, ne pas en parler pour le développer, le regarder, ce que je disais tout à l'heure. Le manque d'innocence fait que nous nous noyons dans nos considérations sur le mal et nous sommes envahis. Alors évidemment, vous me direz, il faut bien discerner, on est d'accord. Distinguer toujours, mais en distinguant toujours le pécheur du péché, ok ? Mais sans nous y attarder. Quand Jésus nous dit « Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés », il vise l'innocence. Oui, on va discerner, mais on ne va pas juger, parce que dans le jugement, on s'accroche à un mal, et on ne voit plus que ça. C'est comme si vous aviez arrêté le film de votre vie à l'acte pécamineux. On ne va pas plus loin. Alors on récapitule et on termine là-dessus. L'humilité, l'obéissance en tant que écoute, capacité d'écoute, simplicité, vivre sous le regard du Père, pureté, un amour sans mélange, et innocence.